Le vendredi soir, nous avons commencé notre communion et on a mentionné ce point, qu'il y a une bataille pour nos enfants et nos jeunes gens. Nous pouvons le voir au début de la Bible. En fait, en Exode chapitre 1. On a aussi vu que la première fois que les enfants sont mentionnés dans la Bible, c'est en fait le premier chapitre de la Bible. Et quand c'est mentionné, ils sont mentionnés dans le contexte de l'économie de Dieu du Nouveau Testament. Genèse 1, 26 est un verset qu'on est très familier avec dans le recouvrement du Seigneur. Dieu a dit, faisons l'homme, créons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance et qu'ils aient la dominance sur la terre. Donc, la création de l'homme, c'était pour le but d'avoir une expression sur terre. Et aussi d'avoir une représentation. Au verset 27, que cette expression et cette représentation, il a voulu l'avoir dans un homme corporatif. Et beaucoup de saints ont confessé qu'ils étaient familiers avec ces versets, mais pas vraiment avec le verset suivant, verset 28. Et verset 28 dit, « Soyez féconds et multipliez. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Aie des enfants. » Beaucoup d'enfants. Et eux aussi devraient avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés. L'homme, partout dans la terre. Donc ça, c'est la première fois que les enfants sont mentionnés dans la Bible, qui est absolument aligné avec l'accomplissement de l'économie de Dieu. Donc, ce n'est pas une surprise que Satan veut combattre les enfants. Et on le voit sous forme d'illustration dans le livre d'Exode. Vous savez, tout l'Ancien Testament est un livre d'illustration. Et ça nous dit dans 1 Corinthiens 10, que toutes les choses qui sont passées à Israël étaient un exemple pour nous. Et en fait, ça devrait être une admonition à nous. Et le 1 Corinthiens 10, 11 dit qu'ils sont des exemples et des admonitions à nous qui sommes à la fin de l'âge. Donc, cela nous montre que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, on devrait l'appliquer à nous. Tout par rapport à Israël est en fait une illustration de l'Église. Et beaucoup de croyants appliquent cela sélectivement par rapport à l'agneau pascal beaucoup de croyants savent que Christ est l'agneau pascal. Par rapport à la traverse de la mer Rouge, beaucoup de croyants savent que c'est une illustration du baptême. Et la manne, beaucoup de croyants savent que c'est par rapport, ça représente prenant la parole comme notre nourriture. Mais on devrait l'appliquer plus extensivement. Et dans Genèse 1 et dans Exode 1, on voit ce point-là. Que Pharaon, le roi d'Égypte, qui est une image de Satan, le roi du monde, lui, il a un plan contre le peuple d'Israël. Et ce plan a deux niveaux ou deux étapes. Une étape est ciblée à la génération plus vieille et l'autre ciblée à la génération plus jeune. Pour les vieux, son plan est de les rendre fatigués, de les épuiser dans leur travail, dans leur vie, leur existence, pour qu'il n'y ait plus d'énergie. Pour la génération plus jeune, son plan, c'est de les tuer. Au moins les mâles. Oh, Pharaon, il a instruit aux sages-femmes. Vous savez, les deux sages-femmes hébreux, leur nom était Shifra et Pua. Sephora et Pua. J'ai dit l'autre fois que dans le couvrement du Seigneur, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Sephora ou Pua. Parce que ces deux sœurs-là, elles étaient les sauveurs d'Israël. Beaucoup de gens pensent que Moïse était le sauveur. Mais en fait, le sauveur avait besoin d'être sauvé. Qui a sauvé le sauveur? En fait, il y avait quatre sœurs. On n'a pas le temps. Plus un frère. Les frères ont une portion aussi. Mais les sœurs ont encore plus. Et donc, au chapitre 2, puisque ces deux filles ont fait un très bon travail, elles ont forcé Pharaon à changer sa stratégie. Parce qu'il voulait tuer les garçons, mais les deux filles ont sauvé tous les garçons. Et donc là, en chapitre 2, Pharaon a dit de jeter tous les jeunes jeunes garçons, tous les garçons, dans l'eau. Est-ce que vous pouvez imaginer si vous avez eu un garçon, un bébé garçon, et il fallait que tu te jettes dans l'eau? Oh, c'est incroyable. Mais ici, on voit qu'il y avait une équipe d'une mère et une fille. On a une coordination entre la maman et la fille. Donc, vous pouvez travailler ensemble pour sauver Moïse, pour élever un tel garçon. d'élever un sauveur. Donc, ils ont sauvé Moïse, le leader, le chef, pour qu'il puisse conduire Israël. Donc, on a deux enseignants, des enfants. On a une maman, une fille et papa. C'est ce qui nous montre la Bible. Il y a une bataille avec notre prochaine génération. Pourquoi est-ce que cette histoire-là est dans la Bible? Ce n'est pas simplement de nous parler de Moïse. C'est de nous montrer la stratégie de Satan contre l'Église. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur a déclaré, « Je vais bâtir ou édifier mon Église. » La première fois que l'Église est mentionnée dans la même respiration, le Seigneur a dit, « Les portes de Hadès ne prévaudront pas. Je vais édifier mon Église et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Vérifie la ponctuation. Il n'y a pas de point au milieu. Ça ne dit pas, je vais bâtir mon église, point. Non, le Seigneur continue. Et les portes Hadès ne prévaudront pas contre elles. Qui nous montre que chaque fois que le Seigneur édifie son église, les portes Hadès sont là. D'un côté, nous pouvons le prendre comme une promesse. Les portes d'Hadès ne prévaudront pas. Je vous demande, dans votre vie d'église, si vous regardez, est-ce que vous avez jamais eu une situation où ça a l'air que les portes d'Hadès prévalent? Mais vous pouvez lire ce verset et vous pouvez déclarer. Je n'occupe pas de ce que ça a l'air, la situation. Les portes Hadès ne prévaudront pas. Et ils ne nous ont pas prévaut. Amen. De l'autre côté, c'est une bonne avertissement. Les portes d'Hadès vont toujours essayer de combattre, de prévaloir. Donc, ne soyez pas surpris de quoi que ce soit dans la vie de l'Église. Est-ce que vous avez déjà été surpris comme, « Ah, comment ça se fait que ça a été comme ça? » Je ne vais pas demander, mais je pense que beaucoup de mains seront levées. Comment ça se peut que ça arrive? Comment est-ce que vous pouvez poser cette question? Lisez Matthieu 16, 18. C'est les portes d'Hadès qui essaient de prévaloir. Peut-être qu'on n'a jamais réalisé qu'une façon que les portes d'Hadès essaient de prévaloir, c'est en allant vers la prochaine génération. En essayant de les conduire, les jeunes gens à quitter. Parce que l'ennemi distrait ou il décourage la prochaine génération aujourd'hui. S'il le fait aujourd'hui, ça va être manifesté 10 ans après, même de 20 ans après. Peut-être que ça n'a pas beaucoup d'effet aujourd'hui, mais ça va être manifesté dans l'Église dans 10 ou 20 ans. dans certains cas, dans notre histoire, dans le recouvrement du Seigneur, la majorité d'un certain âge, ils manquent. Ils ne sont pas là. Parce que, il y a 30 ans, l'ennemi a fait quelque chose. C'est ça mon expérience, en fait. Beaucoup dans ma génération, on était là comme adolescents ensemble. On était là, on a aimé le Seigneur, mais l'ennemi est entré. Et beaucoup de mon compagnon n'ont pas continué dans ce chemin-là. Mais nous prenons la promesse de Dieu. Les portes de séjour des Hadès ne prévaudront pas. Comment est-ce que l'ennemi entre? Comment est-ce que l'ennemi distrait? Par beaucoup de moyens. Parfois, il va y avoir une situation ou des tempêtes dans l'Église, mais plus souvent que non, l'attaque est personnelle. Et l'ennemi vient un par un pour attaquer notre prochaine génération. Comment est-ce qu'on peut combattre cela? Je dis un mot. Les pêtres, avoir les soins pastoraux. Les soins pastoraux, tout inclusif, qui englobe tout. Les soins personnels. Et pêtre leurs âmes. Nous venons de lire ce verset. Il a dit, Pierre, parmi tous les gens, Pierre était le seul qui a écrit ce verset-là. Paul parle de soins pastoraux, mais il n'y a pas cette phrase-là. Le berger de nos âmes. Nous allons lire une histoire de Pierre tout à l'heure. Le Seigneur a paix l'âme de Pierre, pas son esprit. Je crois que si moi j'écrivais cela, j'allais écrire, j'aurais écrit de paître nos âmes, nos esprits, pardon. Il faut faire attention aux âmes des enfants. Quand nous servons les enfants, il faut connaître leurs âmes, leur intelligence, leurs pensées, leurs petites émotions, leurs petites volontés. Quand vous servez les jeunes gens, s'il vous plaît, ne les donne pas l'impression. Ne leur donne pas l'impression que vous voulez juste être conforme à leur programme, que vous voulez simplement les rendre conformes à un certain comportement dans la vie de l'Église. Parfois, nous faisons ça sans le savoir. Sans le savoir, nous les encourageons à performer. Et ça se peut que ce ne soit pas très réel pour eux, mais ils le font pour rendre conforme à la réunion. Inconsciemment, nous encourageons l'hypocrisie. Paix leurs âmes. Connaissez leurs âmes. Quand vous connaissez leurs âmes, vous les connaissez. Soyez les bergers de leur âme. Vous savez, quand vous paissez les âmes des autres, vous pouvaient avoir une entrée dans leur cœur. Dans 1 Thessaloniciens 2:1, Paul dit que vous savez quelle sorte d'entrée que nous avons avec vous. Si vous voulez aider les gens, même les enfants, les jeunes gens, les étudiants collégiaux, les plus aînés, tous les gens, il faut avoir une entrée dans leur cœur. Si quelqu'un refuse d'ouvrir son cœur à toi, même Dieu ne peut pas entrer, et encore moins toi. Nous, par notre nature, nous choisissons à qui nous ouvrons nos cœurs. Quand je te vois, quand tu me contactes, je suis pas sûr si tu je suis pas sûr de tes intentions, si tu as vraiment un cœur pour moi. Et si c'est le cas, ben je vais fermer mon cœur. Peut-être que vous allez dire comment ça va. Et peut-être que vous allez sourire, mais il n'y a pas vraiment de cœur. Comment va l'église? Comment va l'école? Qu'est-ce que vous aimez faire? Pas grand-chose. Et peut-être une autre. avec un autre, quand il demande comment ça va, il ouvre son cœur. C'est différent. Moi, j'étais sous le soin des frères comme ça. Moi, je suis venu dans la vie de l'église quand j'avais 14 ans. Et donc, dans mes années des adolescents, il y avait des frères qui étaient assignés à moi. Je pouvais le voir, je pouvais le sentir. J'ai un radar. Pharisien, avertissement, pharisien. C'était pas que j'étais pas heureux avec eux, mais j'ai choisi de ne pas ouvrir mon cœur à eux. Mais il y avait d'autres frères et d'autres sœurs. Ils étaient mes mamans et mes papas dans la vie de l'église. La porte était ouverte. Ils avaient la clé si la porte n'est pas fermée. Je pouvais leur dire tout, même mes échecs. Même mes échecs. Parce que j'ai échoué. J'ai échoué dans la vie de l'église, quelquefois. Mais il y avait deux couples. Je savais qu'ils m'aimaient. Surtout les mamans, je pouvais aller leur dire. Je pouvais dire, j'ai fait, non. Mais elle a dit, je savais. J'attendais à ce que tu viennes à moi. Il y avait une qui m'a vraiment réprimandé. Mais j'ai pu le recevoir par elle, seulement par elle. Parce que j'avais l'assurance à 100% qu'elle m'aimait. Elle ne voulait pas me rendre conforme à quelque chose. Elle m'aimait simplement. Chaque personne répond à l'amour. Ce plan que vous avez, c'est un plan qui est long. En fait, c'est deux plans. Mais en réalité, c'est un plan, un long plan avec six grands points. ce plan. Je dois aller chercher quelque chose dans mon sac. Je crois que c'est là-dedans. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce petit livre, Comment conduire les jeunes gens. On l'a dans toutes les langues. Je crois que c'est en français. Non, ce n'est pas en français. Mais en espagnol, en coréen, on l'a. Ce petit livret. Contient 6 points comment conduire les jeunes gens, comment les paître. Donc, ce plan est en fait ce livret-là. Et au cours du week-end, on a mentionné ce livre-là, Élever la prochaine génération pour la vie de l'Église. Ce livre-là est particulier parce que ça ne vient pas d'une conférence de Frère Lee. C'est en fait un recueil de beaucoup de messages de Frère Nie et Lee. Et donc, il y a beaucoup d'extraits de beaucoup de messages. Parce que ni Frère Lee a donné un message au complet dédié aux enfants ou aux jeunes gens. Frère Lee a un chapitre, un message sur les parents. Et ça fait partie du chapitre 8 dans ce livre. Frère Lee a son livre Comment connaître les jeunes gens, et c'est le chapitre 21. Le frère Lee a donné une autre communion, formation pour les enseignants des jeunes gens. Et ça se trouve dans le chapitre 23 à 24 dans ce livre-là. Donc les frères ont fait un recueil de beaucoup d'extraits par rapport à élever la prochaine génération pour la vie de l'Église. J'aimerais recommander cela au sein. Chapitres 6, 7 et 8 sont dédiés aux parents. On a couvert ce chapitre-là, hier. Chapitre 10 à 16 parle des enfants. On a parlé de un de ces chapitres hier par rapport à les réunions d'enfants et par rapport à avoir les réunions dans les voisinages pour les enfants. Comment avoir les messages qui sont au bon niveau pour les enfants. Comment avoir un bon chant avec les enfants. Et après, il y a 8 chapitres sur les jeunes. Et donc, ces deux plans-là sont 2 de ces 8 chapitres-là dans ce livre. J'aimerais qu'on lise le plan, le titre du plan et tous les points romains. Donc, avoir de l'intérêt. Avoir de l'intérêt pour les jeunes gens, les contacter et mettre l'emphase sur la pratique et non pas les doctrines. Point Romain 1. Ensemble. Si vous voulez aider les jeunes gens, il faut avoir de l'intérêt pour eux. C'est ça le premier point. J'espère que vous pouvez encercler ce mot « intérêt ». Il faut avoir de l'intérêt. Il faut montrer de l'intérêt. On va revenir là-dessus. lisons le point Romains 2. Apprenez à contacter les jeunes gens, aidez les jeunes frères et sœurs. Ne dépend pas de notre capacité de leur donner des messages, mais de nos contacts réguliers et fréquents avec eux. J'espère que vous pouvez encercler. Régulier, fréquent, contact régulier et fréquent. Point Romains 3. Ensemble. Mettre l'emphase sur la pratique plutôt que stresser les doctrines. Lorsque nous aidons les jeunes gens, donnez-leur quelque chose de pratique. Encercler la pratique. Mettre l'emphase sur la pratique. Le prochain plan, qui est intitulé « Avoir bonne confiance dans les jeunes gens, s'adapter à eux et les contacter d'une façon personnelle. » Point Romains 1, qui est en fait point Romains 4. Nous devons avoir bonne confiance dans chaque jeune. Encercler, bonne confiance. Point Romains 2, qui est point, en fait point Romains 5. Ceux qui ont un désir de faire l'œuvre des jeunes gens doivent apprendre à s'apparier et s'adapter aux jeunes gens. S'apparier et s'adapter. Encercler, s'apparier et s'adapter. Et le point final, qui est en fait le point 6. Prêtez attention au contact personnel. La puissance et l'effet de faire une œuvre personnelle avec les jeunes gens sont plusieurs fois mieux que les réunions. Encercler, contact personnel. Qui est comme le point 2. Donc, on a couvert tout le plan. On ne va pas trop lire les détails de ce plan. Je vais laisser ces plans pour votre lecture. J'aimerais revenir point par point et de sortir le fardeau. Le premier point, c'est montrer et avoir de l'intérêt pour eux. Le premier point dit, ne trouvez pas leurs défauts en partant. Si vous le faites, vous ne pouvez pas les aider. Le petit 1. Certains aiment les gens. Ouais. Certains aiment les gens. Non, ça dit. Point 2. Souvent, Dieu ne prouvera que notre évaluation de ceux que nous estimons bien est inexacte. Plutôt, ceux que nous n'estimons pas bien peuvent être grandement utilisés par Dieu. Peu importe si les jeunes gens sont bons ou mauvais, nous devons traiter tout le monde pareil et nous devons les aimer et d'avoir de l'intérêt pour eux. Si nous voulons aider les gens, les jeunes gens, il faut que nous ayons de l'intérêt pour eux. Ne vous occupez pas de leurs fautes et de ne les condamnez pas du tout. Aider. Nous devons donner l'impression aux jeunes gens que nous sommes de bons amis, que nous sympathisons avec eux et que nous avons de l'intérêt pour eux et pour leurs affaires. Lorsque nous traitons les jeunes gens et les enfants, il faut que nous leur donnons le sentiment qu'on est intéressé à eux. Quand nous parlons à un enfant, la meilleure façon de parler à un enfant, c'est pas de dire « bonjour », c'est Je vois pas, mais on s'assoit, on s'abaisse à eux. Et on joue avec l'auto. Je vous dis, le petit garçon, il va vous regarder. Pas comme ça, mais comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je joue. Oh, quelle automobile! Tu vas où ils sont? En principe, c'est la même chose avec les adolescents. C'est sûr que les adolescents ne s'assoient pas par terre. Ils vont penser à... Ça, c'est un peu bizarre. Ça va les faire rendre pas ouverts à toi. Mais soyez intéressés à eux, authentiquement. Il faut les connaître. Au prochain point. Le point 3 sur la praticalité. Frère Lee dit même, il faut étudier les jeunes gens. Et il faut connaître l'âge. Connaître leur intérêt. Il faut, en tant que parent, il faut exercer cela avec nos propres enfants. Sinon, vous allez les perdre. Soyez intéressés. Le prochain point, barre de contact. L'intérêt est démontré par avoir le contact avec eux, de passer du temps avec eux. Frère Lee dit, le contact régulier, fréquent et personnel. Simplement contactez-les. 2A. 2A. Souvenez-vous de ne pas parler des choses spirituelles lors de votre contact initial avec eux. Lorsque vous contactez les jeunes frères et sœurs, ne commencez pas en demandant « Combien de chapitres de la Bible avez-vous lu aujourd'hui? Avez-vous prié? » De telles questions ne devront pas être abordées avant que vous ayez eu plusieurs contacts avec eux, peut-être même après 8 ou 10 fois. Souvenez-vous de ne pas parler des choses spirituelles lors de votre contact initial avec eux. B1. Si vous le faites trop tôt, il sera facile d'induire une réaction négative. Si vous gâchez le tout, peut-être qu'ils ne recevront pas le Seigneur pour le restant de leur vie. Vous savez, avec nos bonnes intentions, on peut contacter quelqu'un. On veut qu'il soit ouvert, mais en fait, on les ferme pour toute leur vie si nous ne sommes pas soucieux. Ouais. Beaucoup de serviteurs, parce qu'ils connaissent pas très bien les jeunes gens, pas juste nos jeunes gens, mais les jeunes gens en général. Ils savent pas comment, ils savent pas de quoi parler si c'est pas la Bible. Chers serviteurs, il faut être plus large. Il faut parler de leurs affaires. Ça ne veut pas dire que vous êtes mondain, mais les jeunes gens, en fait, ils connaissent un peu des choses. Ils savent quels films sortent. C'est sûr que les serviteurs ne vont pas au théâtre, au cinéma. Et peut-être des serviteurs, des serviteurs, ils vont jamais au cinéma. Et quand ils apprennent que les jeunes gens, ils vont au cinéma, eux, ils pincent leurs lèvres. Comment est-ce que nos jeunes gens sont comme ça? Mais si vous leur donnez l'impression de ça, cela de vous de leur donner cette impression, vous ne pouvez jamais leur servir d'une bonne façon. Vous savez, dans ce livret, la première fois que je l'ai lu, j'étais choqué par une histoire. Le frère Lee dit, supposez que vous êtes en chemin à la Réunion et vous voyez un jeune gens et vous dites « Bonjour, qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Je vais au cinéma. » Tu devrais lui dire « Ah, je vais aller chercher un taxi ou bien je vais te conduire. » Ou bien dans le taxi, tu le demandes « Est-ce que tu as assez d'argent pour le billet? Je vais acheter le billet. » Et tu, non, c'est pas grave. Quand je l'ai lu ça, j'ai dit, frère Lee, oh frère Lee, c'est quand tu les aides à aller dans le monde. C'est pas les aider à aller dans le monde, ils vont aller peu importe. Frère Lee dit, après, vous devez. Le film, ça dure combien de temps? 1h30? Je ne vais pas aller avec toi. Je vais aller à la Réunion. C'est à peu près la même chose. 1h30, 2h. Après ma Réunion, je vais venir te chercher. Et je vais te déposer à la maison. J'ai dit, oh Seigneur! Est-ce que j'ai cette grâce-là? Ou est-ce que je vais à la Réunion et je dis... Et quelqu'un dit, je vais au cinéma et toi, tu réagis comme... Et si tu dis, mais c'est une réunion, tu vas au cinéma? Je sais pas si les serviteurs peuvent résister la tentation de les inviter aux réunions. Faire Lydie, ne les invitez pas aux réunions. Mais, cher saint, je sais que ça c'est la façon de paître les gens, paître les âmes. Il y a des jeunes gens ici. Ne prenez pas ça de la bonne façon. Ne pensez pas que vous allez avoir c'est quelqu'un qui va vous conduire au cinéma. Non. Mais ça, c'est la façon de montrer l'intérêt par le contact. Ne les jugez pas. Même le point suivant, s'apparier et s'adapter. Une fois, dans mon petit groupe, j'ai acheté un livret pour tous les autres serviteurs. J'ai dit, s'il vous plaît, lire ce livret-là et la semaine prochaine, on va avoir de la communion là-dessus. Et la semaine prochaine, j'ai demandé, frères et sœurs, c'est quoi votre sentiment? Et une sœur a dit, non, je ne peux jamais faire ça. Elle ne pouvait pas le faire. Je dis, d'accord, je comprends. Moi, je ne te juge pas. Je ne juge pas les jeunes gens, je ne te juge pas non plus. Fais ce que tu peux. Paix de ta façon. Mais paix simplement. Cher serviteur, ne le prenez pas ça trop loin. On va aller conduire tous les jeunes gens au cinéma. Non, ne faites pas non plus. Les anciens vont vous appeler. Et vous allez dire, « Oh, mais le frère Ricky a dit. » Les anciens ne vont jamais inviter le frère Ricky ici. ne comprend pas, n'ayez pas de mal compréhension. L'esprit ici, c'est de s'adapter. Il y avait un frère. En fait, il était un de nos collaborateurs. Il m'a parlé de cette histoire. Il m'a raconté une histoire. Et lui, il est allé rendre visite à une famille qui ne réunissait plus. Et il est allé vers Frère Lee. Et il a demandé, Frère Lee, ce couple-là n'est simplement pas ouvert. Je crois que je vais abandonner cette famille. C'est une perte de temps. Et le Frère Lee lui a demandé, en fait, j'ai lu cette histoire dans un livre. Je ne savais pas que c'était lui, le frère. Donc, on parlait de cela. Le frère a dit, « Oui, ce frère-là était moi. » Mais c'est ça que le frère lui a dit. « Combien de fois est-ce que vous êtes allé rendre visite chez eux? » Et il a dit, « 10 fois. » Et le frère lui, qu'est-ce qu'il a dit? « Seulement 10 fois? » Après seulement 10 fois, tu vas les abandonner? Est-ce que vous voyez le cœur, l'esprit? Pour moi, le meilleur exemple, c'est le Seigneur lui-même, dans Luc 24 et Jean 21. Le Seigneur nous a donné le meilleur exemple en lui-même. Vous êtes familier avec ces deux chapitres-là? Je crois que beaucoup de frères connaissent, beaucoup de saints connaissent chapitre 21. La position des deux chapitres-là est très significative. Le chapitre 21, c'est le dernier chapitre du dernier livre des Évangiles. C'est le dernier chapitre. Il y a une histoire ici. C'est quoi l'histoire? Il faut connaître ce qui s'est passé au verset 20 pour apprécier 21. Au chapitre 21, le Seigneur est ressuscité. Et ensuite, dans la soirée, il a soufflé l'Esprit, le Saint-Esprit sur eux. Et l'Église est produite. Et ils ont le Seigneur en eux, à l'intérieur d'eux. Et au chapitre 21, les frères, les disciples, ils sont ennuyeux. Pierre est allé pêcher. Et les deux autres disciples sont allés avec lui. Ce sont des disciples. Le prochain chapitre, il commence à prêcher l'Évangile. Le chapitre 21, au chapitre 21, on voit qu'ils sont ennuyeux et ils vont aller à la pêche. C'est significatif qu'on voit ça, parce qu'on voit qu'ils ont détourné, ils ont reculé. Et rappelez-vous que le Seigneur a dit que je vais vous faire des pêcheurs des hommes. Mais ici, après 89 chapitres des évangiles, dans le dernier chapitre, dans la résurrection, avec l'Esprit qui donne la vie, ils retournent à leur filet et ils pêchent toute la nuit. Et ils attrapent rien. Loué soit le Seigneur. Ils attrapent rien. Donc, vous pouvez imaginer qu'ils étaient découragés. Et même qu'ils n'étaient pas très contents. Et ça commence à être l'aube. Et là, ils ont vu quelqu'un. Et le Seigneur a dit, « Enfant, vous n'avez pas de poisson à manger, hein? » Est-ce que vous pouvez imaginer être dans ce bateau-là? Imaginez, frère. Si nous sept frères sommes dans le bateau et on dit encore rien, sept pêcheurs professionnels, enfants. Est-ce que vous pensez quelqu'un entre les sept à lui dire lui c'est qui, hein? Occupe-toi de tes propres, c'est pas de tes oignons. Mais Jésus a dit jetez le filet de l'autre côté de la bateau, du bateau. Est-ce que tu penses que le bateau est si large que ça va faire une différence si tu jettes le filet de l'autre côté? Je ne pense pas que c'était si large que ça fait une différence. D'ici à là, mais c'est ce que le Seigneur a dit. Peut-être. Peut-être que quelqu'un pensait, fais-le simplement. Et aussitôt qu'ils l'ont fait, ils ont attrapé 153 poissons. 153. Pourquoi est-ce que la Bible nous raconte ce chiffre 153? Et c'est tôt que ça est arrivé. Jean a dit, « Oh, c'est le Seigneur! C'est le Seigneur! » Et Pierre, il était nu et il se jetait dans la mer. Et après, il nageait pendant que les autres fermaient le filet. Pourquoi est-ce qu'on a cette histoire-là? Et après, quand ils sont rendus à la plage, Jésus a dit, « Viens pour avoir le déjeuner. Viens déjeuner. Il y a un feu là-bas. » Lui, il a le poisson. Ils étaient dans la mer, il n'y avait pas de poisson, mais rendu à la plage, il avait le poisson. S'ils avaient simplement confié au Seigneur, ils auraient eu du poisson. Donc, ça nous montre que on peut vivre par la foi. Et rendu à la plage, il y avait un feu. Et il s'assoit autour du feu. Et Jésus dit, Simon Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu? Tu me demandes ça maintenant? Oui, il a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mes agneaux. En fait, paix mes agneaux. Ça, c'est les petits. Simon. M'aimes-tu? Mais tu viens de me le dire, de me poser la question. Je n'étais pas clair. Tu me crois pas? Peut-être que je t'aime pas vraiment. Peut-être que tu penses que... Ou peut-être que tu sais que je ne t'aime pas. Mais non, Seigneur, tu sais que je t'aime. Soyez le berger de mes brebis. Simon, oui, Seigneur, m'aimes-tu? Pierre était attristé. Seigneur, je t'aime. Tu connais toutes choses. En fait, toi, tu sais si je t'aime ou je ne t'aime pas. Et Jésus dit, paix mes brebis. Donc, le Seigneur était en train de paître son âme. Il était en train de recouvrer, restaurer son amour pour lui. Avant, quand ils étaient dans la mer, ils étaient où ils ne devraient pas être. Mais c'était quoi l'attitude du Seigneur? L'attitude du Seigneur n'était pas « Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? » Vous ne devez pas être là-bas. Et vous avez attrapé rien, non? Hein? Et après, rendu à la plage, peut-être si c'était toi ou moi, on serait comme ça, avec cette attitude-là. Mais le Seigneur n'était pas comme ça. Il était comme ça, avec une telle attitude. Viens déjeuner. Mais c'est intéressant. Dans Luc 24, il y a une autre histoire avec deux disciples. Et ces deux disciples-là, ils allaient à quelque part où ils ne devraient pas être. Mais avec eux, en fait, on va lire ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes familier avec cette histoire-là? Le Seigneur, en fait, il marche avec eux. Même jusqu'à sa maison, leur maison. Et ça montre un principe. Marcher avec les gens. Mais dans Jean 21, le Seigneur les appelait à une petite distance. Il est allé à la plage. Il n'est pas allé dans l'eau. Vous savez que dans la Bible, la mer représente le monde et la terre représente l'Église. Donc, le Seigneur n'allait pas jusqu'au bout. Il y a une limite, des fois, quand nous paissons les gens. Ne traitez pas incorrectement le verset qui dit « Soyez toutes à tous les gens ». Une personne a dit, le pêcheur, lui, il a ses mains sales. Donc, il y a des gens qui disent, si les gens vont au bar, ne soyez pas religieux, va avec eux au bar. Et en fait, eux, finalement, ils ont entré dans la tentation. Ils ont ni gagné leur ami. En fait, on a perdu notre frère. Donc, il y a une limite de où on peut aller, jusqu'à où on peut aller. Il y a d'autres histoires avec où c'est le Seigneur a marché dans la mer. Mais ici, on voit que le Seigneur est resté sur la plage. Il a montré de l'intérêt dans ce qu'ils faisaient. Il les a même aidés dans leur projet. Il les a aidés à réussir et leur cœur était ouvert. Et après, ils ont vu le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur gagne les gens. Il y a beaucoup à apprendre dans ce modèle-là. Dans Luc 24, tournons à Luc 24. Au début du chapitre 24, il y avait des sœurs qui ont découvert que le Seigneur s'est ressuscité. Au verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. C'est à peu près 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui était arrivé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà le principe. Quand vous allez aux gens, ne dites pas « Je suis Jésus! » Il faut aller discrètement. Oui, vous êtes Jésus à eux. Quand vous allez vers eux, Jésus va vers eux. Tu es un homme Dieu. On l'a mis l'accent dessus hier. Mais allez simplement comme un homme. Ne leur demandez pas, est-ce que vous avez lu la Bible aujourd'hui? Simplement va à eux avec un cœur d'amour. Jésus leur a dit, le verset 17, il leur dit, quels sont ces propres que vous échangez en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air triste. Ils s'arrêtèrent, l'air triste. Je ne crois pas qu'ils marchaient rapidement. Normalement, quand vous êtes triste, vous ne marchez pas rapidement. Vous marchez comme ça. Et commençaient à parler. Ils parlaient. Et Jésus, il marchait à leur cadence, à leur vitesse. Et il leur demandait, quelles sont ces choses dont vous parlez? Jésus leur a demandé une question, posé une question. Et tu penses que Jésus savait de quoi il parlait? Je crois que oui. Mais Cléopas lui répondit, es-tu le seul à séjourner à Jérusalem et ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Moi, je n'aime pas son attitude. Tu sais pas, sérieusement? Et qu'est-ce que Jésus dit? 19, verset 19. Et il leur dit, quoi? Ça, c'est Dieu! Il a dit, quoi? Tu ne pensais pas qu'il le savait? Oui, il savait. Pourquoi il a fait ça? Tu sais comment on s'appelle ça comment? C'est de jouer comme stupide. On joue le stupide. Quand tu contactes les jeunes gens, ne prêchez pas. Posez des questions pour entrer dans leur situation. découvrir des choses par rapport à eux. Éventuellement. Et il a dit ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu, devant tout le peuple. Et il a expliqué dans les Écritures toutes les choses en ce qui le concernait. Et ils approchèrent du village où ils allaient. Ça veut dire qu'ils marchaient les 60 stades, 11 kilomètres. Ils étaient ensemble pendant longtemps. Et quand ils approchèrent du village, regardez 28, il fit comme il s'allait plus loin. Est-ce que vous pouvez imaginer le Seigneur Jésus? Mais ils se pressèrent en disant, là, ils étaient ouverts, ils voulaient être avec lui. Ils ont dit, ah, nous sommes là. Et le Seigneur a dit, le Seigneur était un acteur. Dieu a fait semblant. Où est-ce qu'il allait aller? Il voulait aller chez eux. Est-ce que c'est dans votre Bible? Il était comme un acteur. Comment, c'est qui le sauveur qu'on a? Il veut, il aime jouer avec l'homme. Quel Dieu! Oh, mais nous, on est comme, c'est pas convenable, c'est inconvénient, c'est. Et eux, il lui a donné le pain à lui, ils ont mangé ensemble. Ils ont en fait réalisé que c'était Jésus. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné à Jérusalem. Si c'était toi ou moi, quand ils marchaient vers Emmaüs, peut-être que nous, on serait là-bas. Tu vas où? Ou peut-être que nous, on serait comme l'ange dans l'âne de Balaam. Balaam était sur la l'âne. Et Balaam commence à frapper l'âne. Et l'âne commence à parler et dire. et l'âne commence à dire à Balak, oh, pourquoi me frappes-tu? Et Balaam dit, mais je te frappe parce que tu n'avances pas. Ils ont une petite chicane entre eux. Et il y a un ange là-bas avec une épée en flamme. Ton âme, il a beaucoup t'aidé. C'est peut-être l'attitude qu'on a. Parce que tu as la grâce de marcher avec les gens. de marcher là où il ne devrait pas marcher. De poser les bonnes questions. Pas par rapport à la Bible, mais par rapport à ce qui est dans leur cœur. Est-ce que vous pouvez débarrer leur cœur et au bon moment de servir Christ à eux pour que leur cœur brûle et ils veulent te suivre et ils sont restaurés. Et le résultat, c'est qu'ils sont, ils sont retournés dans la vie de l'Église. Pour moi, c'est les deux meilleurs exemples de Petre. Ça nous montre tous ces principes. Vous savez, au point 3 de notre plan, ça nous parle de mettre l'emphase sur la pratique. Ça dit, nous ne devrons pas stresser les doctrines. Pas seulement quand nous avons le contact personnel avec eux, mais aussi quand nous prêchons l'Évangile ou quand on donne des messages. Si nous leur donnons simplement des enseignements de doctrine, il n'y aura pas beaucoup d'effet. Plus qu'on les donne des doctrines, plus qu'ils vont être froids et reculants. Dans mon observation, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de nos jeunes gens sont devenus froids, morts et reculants. Ne les blâmez pas. Ne blâme pas les parents non plus. Il faut poser la question. Moi, est-ce que je suis intéressant? Tu peux pas changer la Bible, le message, mais tu peux changer la présentation. Ça ne veut pas dire que tu devrais introduire des drames ou autre chose. Il faut faire attention. De ne pas apporter de le mélange avec le levain. Un peu de levain va ruiner tout le pain. On ne devrait pas suivre les tendances mondaines dans la chrétienté. Il faut faire attention. Quand c'est les fêtes, le temps des fêtes, c'est juste le levain. Ces choses-là, c'est le levain. Vous pouvez présenter Christ. On n'a pas besoin de ces choses-là. Mais vous avez besoin d'exercer, de préparer, de prier, d'avoir la communion, de comment rendre ce point intéressant et aussi pertinent. Si les jeunes gens ne pensent pas que le sujet est pertinent, pourquoi est-ce qu'ils devraient écouter aux serviteurs? Ça ne correspond pas à leur vie. Il n'y a aucune pertinence à l'extérieur de ces murs-là. Il faut leur donner quelque chose qu'ils peuvent appliquer en dehors de l'Église, quand ils sont à la maison, quand ils sont à l'école. Mais là, est-ce qu'ils peuvent appliquer ce que vous dites? Ils vont revenir à toi. Oui, c'est vrai. Donne-moi plus. Puisque les jeunes gens ont beaucoup de problèmes pratiques, nous devons percevoir leurs sentiments en commençant avec ces problèmes. Nous devons passer du temps à étudier les problèmes des jeunes gens dans leur vécu pratique. Y compris le problème avant et après leur salut. Selon nos études, lorsque nous prêchons l'Évangile ou leur donnons une parole d'édification, ce dont nous parlons est pratique et relié aux affaires pratiques, de ce que nous avons touché dans leur vie. Vous savez, ces jours-là, je ne sais pas c'est quoi l'atmosphère ici, mais aux États-Unis, je sais aux États-Unis qu'il faut parler aux jeunes gens par rapport à l'homosexualité, les lesbiennes, les gays, LG, transgenres et bisexuels, par rapport à l'homosexualité. Les jeunes gens font face à ces choses-là. Aux États-Unis, même dans les écoles publiques à New York, il y a un problème par rapport aux salles de bain transgenres. Nos enfants font face à ces choses-là dans les écoles publiques. On ne peut pas être comme les autruches qui mettent la main dans le sable. C'est comme ça qu'ils traitent les problèmes. Peut-être que si je reste dans le sable, après un bout de temps, les problèmes vont disparaître. Non, quand nous levons nos têtes, nos enfants vont disparaître. Non, il faut traiter ces problèmes. Il faut les former. Comment répondre à ces questions? Dans la bonne manière, selon les Écritures, mais sans jugement, pour qu'ils puissent toujours prêcher l'Évangile et pour être un membre qui contribue à la société. Ces eaux, ils n'ont jamais navigué ces eaux-là, mais nous non plus, donc il faut apprendre. Et honnêtement, pour beaucoup de saints, c'est très inconfortable de parler de ces choses-là. Mais c'est là où sont nos enfants. Et comment les aider si vous ne les marchez pas avec eux? Et il faut aussi connaître la parole. Qu'est-ce que la parole dit dans toutes ces choses? Et d'avoir une bonne attitude. Si on peut leur donner ce genre d'aide, ils vont savoir que l'économie de Dieu est pratique. Même dans un tel environnement, je peux expérimenter l'économie de Dieu. Au deuxième page, il faut avoir bonne confiance dans les jeunes gens. Point A. Avoir bonne confiance veut dire qu'avec ceux qui sont bons, vous croyez qu'ils vont être encore être mieux, et qu'avec ceux qui ne semblent pas bons, vous croyez qu'ils deviendront bons. En fait, c'est mieux de ne pas catégoriser les gens. Ça, c'est les bons, ça, c'est les mauvais. Aimez simplement tous. Et avoir une bonne confiance. Je peux vous dire que j'ai une histoire en datant de 1985. En fait, ça fait 32 ans de finissant de l'école secondaire à New York. Chaque année, j'ai les... Chaque année, j'ai les noms des finissants. 480 noms. Il y a le groupe le plus grand était... Ils ont été diplômés en 2001. Donc, ils ont fini... l'école secondaire en 1995. C'était notre plus grand groupe, c'était 28 enfants. On a beaucoup d'enfants qui ont été nés en 1982 et 1983. Les serviteurs des réunions d'enfants ont demandé aux anciens, s'il vous plaît, priez pour nous et pour les messages d'évangile dans nos réunions d'enfants. Donc, dans la réunion des enfants, la réunion de prière, un des anciens a dit, c'est le temps de l'évangile pour nos enfants. Et ça, c'est la pire leçon qu'on a déjà eue dans l'église à New York. J'ai dit dans mon cœur, frère, est-ce que tu as vraiment dit ça? C'était vrai. C'est pas bien de mettre une étiquette sur quelqu'un. Parce que les nouvelles s'est répandue et même jusqu'aux enfants que eux ils étaient les pires personnes. Vous savez, dans ce groupe-là, il y avait des leaders, des clowns, ceux qui blaguaient. Quand il disait quelque chose, toute la classe riait. En sixième année. Parmi les trois, il y a deux qui servent à temps plein. Et ils aident tous les petits clowns parce qu'ils les comprennent et ils peuvent les atteindre. L'autre, il s'est marié, il a amené sa femme à la formation à temps plein. Et maintenant, il était seulement à courte durée. Mais en fait, le point, c'est de ne pas classifier les gens. Des fois, je regarde des gens et je dis, ah, ils sont si bons. Après qu'ils finissent l'école secondaire, ils n'ont plus un cœur pour le Seigneur. Donc, il faut avoir une bonne confiance dans tous les jeunes. Il faut avoir la confiance au Seigneur. Et j'ai dit hier au Saint, au cours des dernières années, il y avait beaucoup de ceux qui sont revenus à l'Église. J'étais témoin de ça. Le prochain point, c'est de s'apparier et de s'adapter. On a déjà vu ça dans l'exemple du Seigneur Jésus. Le Seigneur a s'apparié à ceux à laquelle il paissait. Mais sous la limitation divine. Et finalement, prêtez attention au contact personnel. L'emphase d'une œuvre authentique avec les jeunes gens est le contact individuel. Les grandes réunions n'ont pas beaucoup d'effet sur les jeunes gens. Lorsque vous les réunissez, normalement, tout ce que vous pouvez leur donner est un message et dans le meilleur des cas, un petit réveil. Il nous semble que l'approche de contact personnel est fragmentaire et une perte de temps. Apparemment, cette façon n'est moins efficace que d'avoir de grandes réunions où on peut parler à des centaines de personnes à la fois. Si tout ce que vous avez, c'est les réunions, L'œuvre des jeunes ne terminera pas quelque chose qui est seulement à la surface, comme du sable sans fondement, et ne pourra pas produire ceux qui sont solides. Nous parlons trop, prêchons trop, et enseignons trop avec trop peu de visites. Plus sont gagnés par le contact face à face, et la plupart des gens sont retenus et édifiés par de tels contacts personnels. N'est-ce pas notre expérience? Oui, nous étions affectés par les réunions, mais ce qui nous a vraiment touchés, c'est le contact personnel. À la fin, vous ne souvenez plus de ce qu'ils ont parlé, mais vous vous souvenez d'eux et comment ils sont toujours là pour vous. Par rapport au contact personnel, des compétences sont nécessaires. Si vous pratiquez cela sérieusement, graduellement, vous allez gagner de l'expérience et de la perception. Amen. Peut-être que ça, c'est assez. Peut-être que vous allez retourner pour lire plus de détails. Chers saints, ce livre, chapitre 20-21, vous pouvez lire les extraits qui sont la source de tous ces points. Je crois que ça va vous illuminer beaucoup. Je crois que dans toute notre communion ce week-end, que nous allons voir que si on veut faire un travail d'élever notre prochaine génération, il faut avoir un fardeau de toute l'Église. Les familles doivent être impliquées. Les familles ne peuvent pas simplement transférer la responsabilité à l'Église. Il y a des cas où on a des jeunes gens où les parents n'est pas dans la vie de l'Église, ou seulement un parent. Mais là, on peut faire un peu plus. On essaie de faire un peu plus. Mais si les parents sont dans la vie de l'Église, en fait, les enfants sont votre responsabilité. Pas seulement leur bien-être physique, mais leur élévation spirituelle. La famille de Noé, la famille de Moïse, de Daniel, Samuel. Tous ceux qui ont tourné l'âge, ils ont été produits par une famille. Ça, c'est la façon plus longue, mais c'est la façon plus solide. Et la famille est impliquée. Mais les serviteurs sont aussi là. Votre rôle est aussi très nécessaire. On a mentionné hier soir avec les enfants. 300 jours du Seigneur, ou même 400. Vous avez 400 opportunités de façonner un petit vase pour le Seigneur. C'est pas quelque chose d'insignifiant. Et ça demande beaucoup de l'intention, de l'attention des anciens. Et tous les frères qui apprennent doivent avoir cela dans votre conscience. Et même d'avoir un cœur de perfectionner les saints. Frères, si vous n'êtes pas impliqués, le bateau ne peut pas aller, peut pas avancer. C'est pas que vous faites l'œuvre, mais il faut paître les bergers et de les assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin, même physiquement. J'aimerais vérifier avec les sœurs. Est-ce que le projecteur marche? Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin? Vous avez besoin de plus? L'Église ne va pas sauver de l'argent, épargner de l'argent pour... Non, on veut dépenser sur vous. Et on veut avoir la communion avec vous. Est-ce que vous avez des problèmes? Les sœurs ont besoin de cela. Les sœurs ont besoin de cela. Elles ont besoin de toute l'Église et aussi les jeunes gens. Chers jeunes gens, vous avez un rôle dans l'élévation des enfants. Vous pouvez dire, mais nous sommes la prochaine génération. Oui, vous êtes, mais il y a même ceux qui sont plus jeunes que vous et vous êtes leur modèle. Votre aide est nécessaire aujourd'hui pour les enfants, pour ceux qui sont plus jeunes. Les parents, les grands-parents. Les grands-parents, peut-être que vos enfants sont partis, peut-être que vos grands-parents, vos petits-enfants n'habitent pas dans la même ville que vous. Il y a beaucoup plus d'enfants. Vous pouvez ouvrir votre maison. Simplement ouvrir votre maison. Préparer des biscuits. Peut-être de du lait, ainsi de suite. Et laisser les jeunes mamans à amener les enfants. Tous les enfants sont gagnés et finalement sauvés. Et les familles qui sont gagnées, ils deviendront votre gloire et votre couronne. Simplement ouvrez votre maison. Du lait et des biscuits, votre prière et votre amour. Amen.